France Culture.
Je voudrais vraiment presque arriver à me concevoir et à concevoir les autres comme uniquement des paquets de lignes abstraites. Et pour moi, la schizoanalyse, c'est uniquement cela. C'est la détermination des lignes qui composent un individu ou un groupe. Or, ça concerne tout l'inconscient. Ces lignes, elles ne sont pas immédiatement données, ni dans leur importance respective, ni dans leurs intenses. Plutôt qu'une histoire, je rêve d'une géographie, c'est-à-dire d'une cartographie. Faire la carte de quelqu'un.
Deleuze retrouvé. 16 leçons de philosophie. David Lapoujade.
Dans l'extrait que vous allez écouter, Deleuze oppose à la démarche psychanalytique fondée sur la mémoire et l'histoire personnelle une analyse de type plutôt géographique ou topologique. Il propose d'établir une cartographie des existences singulières et de dégager les lignes de vie qui nous composent. De quelle nature sont les lignes qui composent nos vies? Et à quel danger nous expose-t-elle? Deleuze insiste notamment sur les risques propres à ce qu'il appelle les lignes de fuite, les plus créatrices, mais aussi les plus destructrices. C'est notamment l'occasion pour Deleuze d'insister sur les dangers mortifères du fascisme. 14e épisode, sur les lignes de vie et le danger du fascisme, cours du 27 mai 1980.
Quelque chose nous arrive, quelque chose nous emporte. Toute la question d'une analyse qui ne serait pas une psychanalyse, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Quelle ligne traces-tu ? Je veux dire, pour moi, l'analyse, ça ne peut être, ça n'est ni une interprétation, ni une opération de signifiance. C'est un tracé cartographique. Si vous ne trouvez pas les lignes qui composent quelqu'un, y compris ces lignes de fuite, vous ne comprenez pas les problèmes qu'il pose ou qu'il se pose. Or, en effet, des lignes de fuite, vous comprenez, ce n'est pas uniforme. Hein. La manière dont quelqu'un peut... Ligne de fuite, même, c'est une opération ambiguë, je dis, c'est ça le processus. C'est ça ce qui nous emporte. Évidemment, ça veut dire que pour moi, les lignes de fuite, c'est ce qu'il y a de créateur chez quelqu'un. Les lignes de fuite, ce n'est pas des lignes qui consistent à fuir, bien que ça consiste à fuir, mais c'est vraiment la formule que j'aime beaucoup d'un prisonnier américain qui lance le cri « Je fuis, je ne cesse pas de fuir, mais en fuyant, je cherche une arme. » Je cherche une arme, c'est-à-dire je crée quelque chose. Finalement, la création, c'est la panique, hein, toujours. Je veux dire, c'est sur les lignes de fuite qu'on crée. Alors, parce que c'est sur les lignes de fuite qu'on n'a plus aucune certitude, hein, que les vraies certitudes se sont écroulées. Alors je dis bien, voilà, le processus. Mais, et là je pense répondre plus directement enfin à ta question, c'est que, je dirais, précisément parce que ces lignes ne préexistent pas au tracé qu'on en sait. Je dirais à la fois, ces lignes préexistent pas au tracé qu'on en fait, et puis toutes les lignes ne sont pas des lignes de fuite. Il y a d'autres types de lignes. Alors, une année, ici, on s'était consacré à ça. Je crois qu'on a passé pas loin de un an à étudier les sortes de lignes qui composent quelqu'un. Qui composent quelqu'un au sens individu ou groupe, dans un champ social ou dans un champ historico-mondial. À la limite, on distinguait comme plusieurs types de lignes. On s'était beaucoup intéressé à une nouvelle splendide, parce que là aussi le début n'est pas loin, une nouvelle très belle de Fitzgerald, où il distingue, lui, il a tout un langage, tout un vocabulaire, où il distingue les grandes ruptures, les petites fêlures, non pas les grandes ruptures, les grandes cassures, les petites fêlures et les vraies ruptures. Et finalement, on vit de ça. Et il essaie de montrer, il montre très bien que c'est trois sortes de lignes. Je crois qu'il y a toujours chez tous les gens ces trois sortes de lignes, mais les unes qui avortent, les autres qui... Alors c'est presque une analyse des lignes, presque au sens de lignes de la main, sauf que c'est pas dans la main ces lignes. Moi je comprendrais rien à quelqu'un si je peux pas le traduire dans une espèce de dessin linéaire. Avec, il faudrait trois couleurs, au moins trois couleurs, en fait beaucoup plus, et tracer les lignes dans lesquelles ils se trouvent. Et comment ils débrouillent. Hein. je dirais, oui, vous comprenez, toutes ces lignes, alors qu'ils s'embrouillent terriblement. Vous avez des lignes, je proposais de les appeler des lignes de segmentarité dure. Et on a tous des lignes de segmentarité dure. Il ne s'agit pas de dire les unes sont mauvaises et les autres bonnes. Il s'agit de se débrouiller avec toutes ces lignes. Des lignes de segmentarité dure, pour moi, c'est des choses que tout le monde connaît bien. Mais déjà, il y a plein de cas comme ça. Il y a des cas très très différents dans ce premier paquet de lignes. Nous sommes, je voudrais vraiment presque arriver à me concevoir, à concevoir les autres comme uniquement des paquets de lignes extraites. Alors, ça ne représente rien ces lignes, mais elles fonctionnent. Elles fonctionnent. Et pour moi, la schizoanalyse, c'est uniquement cela. C'est la détermination des lignes qui composent un individu ou un groupe. Le tracé de ces lignes. Or, ça concerne tout l'inconscient. Ces lignes, elles ne sont pas immédiatement données, ni dans leur importance respective, ni dans leurs inférences. C'est pour ça que, plutôt qu'une histoire, je rêve d'une géographie, c'est-à-dire d'une cartographie. Faire la carte de quelqu'un. Alors, oui, je dis, qu'est-ce que c'est la segmentarité dure ? Eh ben, oui, on est segmentarisé de partout. On est segmentarisé de partout. C'est une première sorte de ligne qui nous traverse. Je veux dire, on est d'abord segmentarisé immédiatement. Le travail, le loisir, les jours de la semaine, le jour, la nuit, etc. Vous voyez, on ne cesse pas, c'est une ligne à segments. Le travail, le jour de vacances, le dimanche, enfin du type métro, boulot, etc. C'est une espèce de segmentarité. Il y a toute une bureaucratie de la segmentarité. Tel bureau, on va, quand vous allez d'un bureau à un autre pour avoir le moindre papier, on voit bien ce que c'est que la segmentarité sociale. On vous envoie d'un segment à un autre. Mais aussi, il y a une segmentarité encore plus troublante, plus difficile. Hein. C'est dire que déjà la ligne, je ne pourrais pas dire qu'il y a une ligne de segmentarité, et ce n'est pas la même pour chacun. Ils sont extrêmement variables d'après les métiers, d'après les modes de vie. On est segmentarisé comme des vers, quoi. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas bien, ça dépend ce que vous en tirez. Mais c'est une première composante de vos lignes, ça. Un segment, un autre segment, un autre segment. Ah là, je rentre, ah, je suis chez moi, ouf, ma journée est finie. Ah, qu'on ne vienne pas m'embêter, passer d'un segment à un autre. Il y a ceux, remarquez déjà, qu'il y a ceux qui ont assez peu, où cette ligne est comme affaiblie. Affaiblie. Ils sont très séduisants, ceux-là, qui ont une segmentarité très affaiblie. On a l'impression qu'ils sont trop mobiles, qu'ils passent d'un segment à l'autre beaucoup plus vite que d'autres, qu'ils ont une segmentarité beaucoup plus souple. Bon, mais je dis, en gros, il y a sur cette, dans ce domaine de la segmentarité, il y a déjà tout un paquet de lignes, et pas une seule, parce que vous comprenez qu'elle est très orientée du point de vue du temps, la ligne de segmentarité. Notamment, c'est d'après des segmentarités qu'on se fait. La triste évolution de la vie, par exemple, on vieillit, jeune, vieux. C'est une autre segmentarité, vous voyez qu'elle se recoupe toutes ces segmentarités, hommes, femmes. Là les hommes, là les femmes. C'est segmentarisé tout ça. Jeune, vieux. Alors, j'étais jeune, je ne le suis plus. Ah, j'avais du talent, mon talent, qu'est-ce qu'il est devenu ? Vous reconnaissez le ton, mais ce n'est pas du tout un ton plaintif chez lui, le ton de Fitzgerald. Pour ceux qui l'ont lu, qu'est-ce que c'est que ces phénomènes de perte de jeunesse, perte de beauté, perte de talent qui se fait sur cette ligne ? Et comment on va pouvoir le supporter, ça ? Bon, tout ça. C'est là, il y a toujours des ruptures, des cassures sur cette ligne. On passe d'un segment à un autre par une sorte de cassure. Il y a des gens qui supportent, c'est déjà très différent cette ligne pour chacun, ou pour les groupes. Les groupes, mais ils donnent tout un statut déjà à cette première ligne. Et puis, il y a une autre sorte de ligne. On sait bien qu'en même temps, ce n'est pas que la première soit une apparence, mais on sait bien qu'en même temps se passent d'autres choses. Qu'il n'y a pas simplement les hommes là et les femmes là. Qu'il y a la manière dont les hommes sont des femmes, la manière dont les femmes sont des hommes. Il y a des trucs beaucoup plus... Alors, une ligne est beaucoup plus... comment dirais-je, beaucoup plus à la lettre, beaucoup plus moléculaire. Et lui, nous, c'est beaucoup moins apparemment tranché que quelqu'un fait un geste. Hein. Quelqu'un, dans le cadre de sa profession, fait un geste et j'ai comme une impression de malaise. Les romanciers, ils ont toujours beaucoup joué là-dessus. J'ai une impression de malaise. Je me dis, tiens, mais ce geste, il n'est pas adapté. D'où ça vient? Il paraît un peu incongru. Il vient d'ailleurs, il vient d'un autre segment. Là, ça fait comme une espèce de brouillage de segments. C'est plus une ligne de segmentarité préétablie, en quelque sorte. C'est une ligne de segmentation fine en train de se faire. Des petites poussées. Petit truc, une petite grimace. Qui vient d'où? Bizarre. Une ligne qui ne procède plus par cassure, espèce de binarité, dualisme, homme-femme, riche-pauvre, jeune-vieux, mais qui procède par, comment on parle, Fitzgerald dit, petite fêlure. Une petite fêlure comme une assiette, qui ne se cassera que à l'issue des petites fêlures, mais c'est par le même chemin, celui de la grande cassure et celui des petites fêlures. Alors finalement, on s'aperçoit qu'on a vieilli sur la première ligne, alors que vieillir est une espèce de processus qui s'est continué longtemps sur la seconde ligne. Le temps des deux lignes n'est pas le même. Bon. Voilà un second type de ligne, qui à son tour est très divers, c'est un second paquet de lignes. Et puis il y a des lignes, encore une fois, d'un autre type, les lignes de fuite. Les lignes que l'on crée, sur lesquelles on crée. Parfois, on se dit, mais elles sont comme ensablées, elles sont comme bouchées. Parfois, elles se dégagent. Elles passent par de véritables trous, elles ressortent. Parfois, elles sont foutues. Les deux autres types de lignes les ont mangées. Et puis, elles peuvent toujours être reprises. Qu'est-ce que c'est que ce troisième type de ligne? Supposons que ce soit. Je dis, faire une schizoanalyse de quelqu'un, ce serait arrivé à déterminer ces lignes et le processus de ces lignes. Ben je dis chaque type de ligne a ses dangers. Moi, je crois que le danger propre à la ligne de fuite et aux lignes de fuite, à ces lignes de délire, c'est quoi? C'est en effet une espèce de véritable effondrement. Qu'est-ce que c'est l'effondrement? Ben, le danger propre aux lignes de fuite, et il est fondamental, c'est le plus terrible des dangers, c'est que la ligne de fuite tourne en ligne d'abolition, de destruction. Que la ligne de fuite, qui normalement et en tant que processus, est une ligne de vie, et doit tracer comme de nouveaux chemins de la vie, tourne en pure ligne de mort. Et finalement, il y a toujours cette possibilité-là. Il y a toujours cette possibilité-là. Que la ligne de fuite cesse d'être une ligne de création et tournant, comme se met à tournoyer sur elle-même et s'enfonce dans ce qu'on appelait une année un trou noir. C'est-à-dire devient une ligne de destruction pure et simple. Je disais, c'est ça qui, à mon avis, explique un certain nombre de choses. Ça explique, par exemple, la production du schizophrène en tant qu'entité clinique. Le schizophrène en tant que malade, et je crois que le schizophrène est fondamentalement et profondément malade, c'est ça. C'est celui qui saisit par le processus, emporté par son processus, par un processus, et ben, il ne tient pas le. Il ne tient pas long, c'est trop dur. C'est trop dur. Vous me direz, il faudra encore dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Au besoin, rien ne s'est passé. Je veux dire, rien ne s'est passé d'assignable. En tout cas, je dis, c'est là et c'est à ce niveau. Qu'est-ce que quelqu'un n'a pas pu supporter ? C'est ce quelque chose qu'il n'a pas pu supporter qui marque, il me semble, le tournant de la ligne de fuite qui cesse d'être créatrice et qui devient ligne de mort pure et simple. Il y a deux manières de devenir ligne de mort. C'est devenir ligne de mort pour les autres, et souvent les deux sont très liés, et ligne de sa propre mort. Et bien, quelque chose tourne mal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le processus tourne vraiment. Lui qui aurait dû, mais qu'est-ce que veut dire la formule, qui aurait dû être ligne de vie, c'est-à-dire de création, qui aurait dû être une espèce de chance supplémentaire donnée à la vie, il tourne en entreprise mortifère. Alors, je dis, sous les formes exaspérées, c'est comme ça, si vous voulez. Si j'essaie de donner un contenu concret, vécu, vivant, à la notion de fascisme, j'ai essayé de dire plusieurs fois à quel point pour moi le fascisme et le totalitarisme, ce n'était pas du tout la même chose. C'est que le fascisme, ça paraît un peu mystique ce que je dis, mais il me semble que ça ne l'est pas. Le fascisme, c'est typiquement un processus de fuite, une ligne de fuite, qui tourne alors immédiatement en ligne mortuaire, mort des autres et mort de soi-même. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Tous les fascistes l'ont toujours dit, mais le fascisme implique fondamentalement, contrairement au totalitarisme, l'idée d'un mouvement perpétuel, sans objet ni but. Mouvement perpétuel sans objet ni but, d'une certaine manière, c'est, on peut dire, c'est ça un processus. En effet, le processus est un mouvement qui n'a ni objet ni but. Il n'a qu'un seul objet, son propre accomplissement, c'est-à-dire l'émission des flux qui lui correspondent. Mais voilà qu'il y a fascisme lorsque ce mouvement sans but et sans objet devient mouvement de la pure destruction. Étant entendu quoi ? Étant entendu qu'on fera mourir les autres et que sa propre mort couronnera celle des autres. Je veux dire, quand je dis ça paraît tout à fait mystique et ce que je dis là sur le fascisme, en fait les analyses concrètes, il me semble, le confirment très fort. Je veux dire, un des meilleurs livres sur le fascisme que j'ai déjà cité, qui est celui de Arendt, A-R-E-N-D-T, qui est une longue analyse, même des institutions fascistes, montre assez que le fascisme ne peut vivre que par une idée d'une espèce de mouvement qui se reproduit sans cesse et qui s'accélère. Au point que, dans l'histoire du fascisme, plus la guerre risque d'être perdue pour les fascistes, plus se fait l'exaspération et l'accélération de la guerre jusqu'au fameux dernier télégramme d'Hitler qui ordonne la destruction de l'habitat et la destruction du peuple. Ça commencera par la mort des autres, mais il est entendu que viendra l'heure de notre propre mort. Et ça, les discours de Goebbels, dès le début, le disent. Alors on peut toujours dire propagande, mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi la propagande était orientée dans ce sens, dès le début. C'est complètement différent d'un régime totalitaire, là, à cet égard. Et une des raisons pour lesquelles, il me semble, une des raisons historiques importantes, c'est pourquoi est-ce qu'encore une fois les Américains, et même l'Europe, n'a pas fait une alliance avec le fascisme. On pouvait leur faire confiance, c'est pas la moralité ni le souci de la liberté qui les a entraînés. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont préféré s'allier à la Russie et au régime stalinien, dont on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un régime que l'on peut appeler totalitaire. Mais ce n'est pas un régime de type fasciste, c'est très différent. C'est évidemment que le fascisme n'existe que par cette exaspération du mouvement et que cette exaspération du mouvement ne pouvait pas donner de garantie suffisante. Et la méfiance à l'égard du fascisme au niveau des gouvernements et au niveau des États qui ont fait l'alliance pendant la guerre, c'est, me semble, si vous voulez, c'est là où Il y a toujours un fascisme potentiel là, lorsque une ligne de fuite tourne en ligne de mort.
C'était Deleuze Retrouvé, 16 leçons de philosophie, réalisées à partir des enregistrements des cours donnés par Gilles Deleuze à Paris 8, déposés et archivés à la Bibliothèque nationale de France, choisis et introduits par David Lapoujade. Réalisation Thomas Jost, prise de son Benjamin Vignal, restauration sonore Grégory Vallon et Jean-Marc Potry, une série proposée par Camille Renard. Retrouvez tous les épisodes sur franceculture.fr et l'application Radio France.